VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA a finalement signé l'accord pour la paix et la réconciliation nationale le samedi 20 juin 2015 à Bamako. Signature qui s'ajoute notamment à celle du gouvernement malien, des médiateurs et des pays voisins. La médiation est maintenant transformée en comité de suivi qui se réunira chaque mois à Bamako pour l'application de l'accord signé par tous les protagonistes de la crise malienne. Plus de précisions avec Kassim Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne.
Au nom de la CEMA, c'est Mamadou Djeri Maïga qui s'est adressé à l'assistance.
La CEMA se réjouit aujourd'hui d'être parmi vous pour procéder à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et c'est l'occasion pour la CEMA de rappeler qu'une paix ne se gagne jamais uniquement à partir d'une simple signature. Elle naît du respect des engagements qu'a prescrit cette signature, de la bonne foi et de la volonté politique des parties concernées. Quant à la réconciliation, elle se signe dans les faits, dans la bonne cohabitation, dans l'intériorisation du statut particulier de l'être humain.
Maître Aruna Touré, porte-parole d'un mouvement d'autodéfense, membre de la plateforme d'Alger.
Et puisque nous sommes tous frères et sœurs de sang malien, ensemble nous prendrons d'assaut les villes et les campagnes du Nord Mali pour y créer, animer des cellules, des comités dynamiques pour le pardon, la paix et la réconciliation.
Pour les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, le plus dur est à venir. Monji Amdi, chef de l'AMINUSMA.
C'est au gouvernement du Mali, à la coordination et à la plateforme, de joindre maintenant l'acte à la signature.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Washington salue l'accord de paix signé samedi au Mali et le département d'État américain souligne la détermination des États-Unis d'aider le peuple malien à le mettre en application. Notre envoyé spécial à Bamako, Idriss Fall, a recueilli la réaction de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Bissa Williams, qui a représenté Washington à la cérémonie de signature à Bamako.
Ce qui reste au peuple malien et aussi à la communauté internationale, vraiment, c'est la mise en œuvre de cet accord. C'est la construction de la réalité de cette paix.
La mise en œuvre, ce sera quand même assez laborieux, même difficile.
Oui, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. On a fait tout le travail nécessaire pour achever que tous les partis s'alignent avec l'accord. L'idée d'avoir la paix au Mali. Maintenant, ces mêmes partis vont travailler ensemble. Il faut élaborer, il faut détailler comment est-ce qu'on va faire le développement. Comment est-ce qu'on va vraiment sécuriser ce pays? Comment est-ce qu'on va intégrer, pas seulement les services militaires, mais intégrer la culture, la compréhension nationale pour que chacun accepte et embrasse l'autre.
Bissa Williams, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines. Le samedi 20 juin 2015 a donc manqué une étape capitale dans le processus de paix et de réconciliation au Mali, la CMA ayant tenu sa promesse de signer l'accord d'Alger. Comment voit-on l'avenir dans le nord du pays, principal champ de bataille du conflit en voie de résolution? Un début de réponse avec notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
À Gao, nous avons tendu notre micro à certaines personnes. Les avis restent partagés. Les uns se réjouissent de cette signature qui annonce la paix et la réconciliation.
C'est d'abord une réaction de joie et d'allégresse. Joie pour tout le monde, ça vous le savez déjà. Des remerciements à l'endroit de tout le monde.
On est content, on veut qu'ils viennent. Ils viennent pour qu'on travaille ensemble. Il ne faut pas qu'ils restent derrière la ville avec les armes. Ils n'ont qu'à revenir, on est prêt à les pardonner. Ils n'ont qu'à venir, on va travailler ensemble. On est content de l'accord aussi.
C'est très content, très félicité CEMA avec son effort, parce qu'il a signé les accords de la paix. Quoi. C'est très beau, vraiment. Bah, déjà, le Mali, là, c'était un pays pardonné. Mali pardonne tout le monde.
Les autres, quant à eux, restent encore perplexes.
Moi, ils ont signé l'accord, mais on n'a pas vu la peine d'abord. Parce que jusqu'à présent, ils ont leurs armes avec eux. Pour avoir la paix, il faut que chacun parle là où il vient, C'est en ce moment-là qu'on est d'accord et on est content qu'il y aura la paix. On a confiance lorsque la paix est respectée. Quoi. Ils vont déposer leurs armes. On va revenir des frères comme avant. On va les pardonner.
Personnellement, je n'ai pu comprendre un seul instant au cours de cette cérémonie d'hier l'absence marquée du numéro 1 du MNLA, Bilal Ag Ashérif, à la signature d'un tel accord aux yeux de toute l'opinion nationale qu'internationale. La paix, à mon sens, n'est pas un simple slogan. C'est plutôt un comportement. Le préalable pour nous aujourd'hui, c'est la cessation des hostilités et que le drapeau du Mali flotte partout sur la République, de Kidal à Menaka, en passant par Abeibara, Tinsako, Aguelhok, Bé, Gargando, Tinaïcha, etc.
Pour le troisième groupe interrogé, cette signature de l'accord de paix ne doit pas faire oublier les nombreux crimes perpétrés ça et là.
On a signé d'accord, mais pour qu'il y ait cette paix que nous souhaitons, il faut que cette justice soit rendue d'abord, pour qu'au moins on se réconcilie et que nous soyons un et indivisibles. Parce qu'il y a eu des violations, il y a eu beaucoup de crimes. Tant qu'il n'y a pas la justice, personne n'aura confiance à son prochain.
D'où cet appel au gouvernement malien et à la communauté internationale.
Le gouvernement malien doit prendre aussi ses responsabilités et respecter ses engagements. Veiller sur la sécurité des biens et des personnes du CAI à Kidal, sans exclusive. À la communauté internationale également, nous demandons de jouer pleinement sa partition, sans parti pris. À ce prix, nous nous engagerons à les accompagner pourvu que la paix soit chez nous.
En tout cas, le plus dur reste encore à venir pour les 16 millions de Maliens qui doivent se réconcilier avec l'accompagnement de la communauté internationale. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Burundi, l'Union européenne dénonce l'impasse politique dans le pays et menace de sanctions ciblées les responsables d'actes de violence et de répression ou ceux qui entravent la recherche d'une solution politique. C'est ce qui ressort d'un communiqué des ministres des Affaires étrangères de l'Union réunis aujourd'hui à Luxembourg. Les intéressés soulignent, tout comme l'Union africaine et la Communauté d'Afrique de l'Est, que les conditions propices pour l'organisation d'élections ne sont pas réunies actuellement, précise l'AFP. Sur le terrain, les forces de sécurité burundaises cherchent à prévenir de nouvelles manifestations dans la capitale Bujumbura. Selon le journaliste burundais Vincent Nkeshimana, joint dimanche par Chérubin Dorsil.
On rapportait qu'il y a des renforts de militaires dans certains quartiers, notamment en Ngagara, ce qui laisse croire que c'est une stratégie de confiner davantage les manifestants parce qu'ils ont déployé des contingents dans les quartiers pour contenir des gens, éviter que des personnes aillent dans la rue. Et donc, tout ce renfort, ça veut dire qu'il n'y a pas de manifestation visible. Ça ne veut pas dire que les choses sont arrêtées, mais il n'y a pas de manifestants visibles. Le pays s'achemine tout doucement vers les élections, mais la grosse interrogation, là, aujourd'hui, c'est combien sont dans la disposition de pouvoir voter.
Vincent Keshimana, membre de l'Association burundaise des radiodiffuseurs. À l'approche de la conférence internationale sur le réchauffement climatique à Paris, le chef de l'Église catholique, le pape François, vient de publier une nouvelle encyclique, la seconde de son pontificat. Un document qui révèle un souverain pontife profondément préoccupé par les problèmes climatiques, la dégradation de l'environnement et l'effritement des valeurs en général. Chérubin Dorsil a interrogé à ce sujet l'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga.
Loué soit notre Dieu est le titre de ce encyclique. Si vous regardez bien, ce texte qui nous est proposé, les chapitres sont bien articulés. Il y a beaucoup de thèmes à retenir dans le premier chapitre, par exemple, de notre maison. Il s'agit de notre planète qui est actuellement confrontée à beaucoup de changements. On voit des pollutions, des ordures, des déchets. Je peux prendre le cas de la République centrafricaine. Quand on regarde le fleuve Ubangi, on y jette beaucoup et le contraire, les plastiques et tout. Ça, c'est la détérioration de la biodiversité et la qualité de vie. Les hommes aussi en pâtissent.
Qu'est-ce que l'Afrique peut retirer de cette encyclique?
La question des êtres humains, dont parle le pape, l'Afrique est très concernée. Tous ces gens qui exploitent les pauvres, les boat people, pour les amener en Europe et qui s'enrichissent. Si on regarde bien la déforestation abusive dans plusieurs endroits, aussi la recherche effrénée de l'argent pour les diamants, de l'or, tout ce que nous voyons comme les grandes entreprises qui arrivent aussi en masse et qui étouffent les petites sociétés, le pape en parle. Et les Africains devaient regarder avec beaucoup d'attention ces genres d'analyse et se poser la question du long terme. Quelle nature ou quelle maison allons-nous confier aux descendants? Ce sont les questions que les Africains devaient se poser.
Quelle suite pratique donne-t-on d'habitude à une encyclique du pape?
Il revient maintenant à chaque église, parce que dans une encyclique, il y a des messages. On va dire messages universels. Et chaque peuple, chaque continent peut maintenant s'arrêter et voir quels sont les enjeux, quelles sont les orientations. Parce que le Saint-Père, il trace la route. Et maintenant, à nous de l'appliquer sur le terrain.
Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui. Et pour terminer, le gouvernement sud-africain dément aujourd'hui les dépêches selon lesquelles un plan avait été préparé pour que le président soudanais Omar al-Bashir, recherché pour génocide par la Cour pénale internationale, puisse quitter l'Afrique du Sud sans encombre après le récent sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Le président Bashir est rentré chez lui sans être inquiété le 15 juin, alors qu'un tribunal sud-africain lui avait interdit de quitter le pays. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.